magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Saturne, c'est le nom d'une planète de notre système solaire dont la caractéristique est d'être entourée par des anneaux. Saturne, c'est aussi le nom d'un dieu romain, Cronos chez les Grecs, un roi connu pour avoir dévoré ses propres enfants. Saturne, c'est enfin le titre du nouveau roman de notre invité qui à la fois raconte l'histoire d'un homme fasciné par le ciel, les étoiles et cette planète, et l'histoire d'un père mort trop jeune pour que sa fille ait le temps de le connaître. Bonjour Sarah Chiche.
Bonjour.
C'est vous l'enfant de 15 mois qui en 1977 devient orpheline d'un père foudroyé par une leucémie à 34 ans. C'est vous la jeune femme qui en 2002 est rattrapée par l'ampleur du deuil familial. Et enfin c'est vous l'auteur qui en 2019 voit ressurgir le passé à l'occasion d'une rencontre furtive qui pourtant va enclencher l'écriture de ce livre qui paraît aux éditions du Seuil et qui est en lice pour les prix Goncourt, Femina et Médicis et déjà lauréat du prix Roman News 2020. Votre quatrième roman, qui pourtant pourrait être votre premier, car il me semble ici que vous tenez une promesse faite il y a des années, celle d'écrire cette histoire. Est-ce que c'est le cas, Sarah Chiche ?
Oui, absolument. Au fond, j'étais toujours déjà requise par ce livre. Il était toujours déjà caché dans tout ce que j'écrivais. Et pourtant, il était fort probable que je n'écrive jamais Saturne. Et puis, il a fallu, comme vous le dites, cette rencontre absolument sidérante avec cette femme au début du mois de mai 2019. Tout à coup, à la suite d'une conférence, une femme est venue à ma rencontre et m'a dit « Vous ne me connaissez pas, mais moi, je sais qui vous êtes. J'ai bien connu vos grands-parents, votre père et votre oncle. C'était à Alger pendant la guerre d'Algérie. » Et là, le sol se dérobe sous mes pas, comme dans ces moments où tout à coup, le réel transperce tout et la vie devient trop grande pour nous. Et donc, passé la sidération, je dirais pas que je m'en suis souvenue parce que je ne le savais que trop, au fond, et je cheminais avec ça. Donc, je me suis mis en tête d'accomplir cette promesse toujours formulée au fantôme de mon père, d'écrire cette histoire, ces histoires, de raconter ce monde perdu, de raconter ces êtres qui ont été fracassés par une guerre qui n'a longtemps pas dit son nom, qui, du jour au lendemain, ont dû s'exiler, qui ont tenté de tout reconstruire en France, et l'histoire de cette famille. N'est-ce pas? Une famille, c'est un orchestre harmonieux, dissonant parfois. Et donc, il arrive que malgré tout, des adultes peuvent mettre à mort leurs propres enfants, sans même le vouloir.
D'où la référence aussi à Saturne.
Oui.
Cronos qui dévore ses enfants et ce tableau de Goya que vous citez d'ailleurs dans le roman. Alors c'est une coïncidence extraordinaire comme toutes les coïncidences, d'autant plus qu'elle a lieu à Genève, une ville où vous avez vécu et où vous êtes, vous avez failli déjà perdre la vie en vous jetant dans le lac. Enfant, et là, voilà, cette femme arrive, elle dit avoir connu vos grands-parents en Algérie. Est-ce qu'en même temps, Sarah Chiche, vous attendiez ce signe inconsciemment ou vous aviez mis un voile noir sur cette histoire?
J'avais mis un voile, vous savez, parfois on se construit contre nos héritages ou tout contre. Et donc tout ce qui, je le dis dans le livre, tout ce qui avait blessé, tout ce qui avait meurtri, tout ce qui fut le lieu de nos tragédies extraordinaires et ordinaires, eh bien avait été mis à distance et... Je regardais cela de très loin. Vous avez dit, oui, mon existence, l'existence de mon père, ce n'était plus mon existence ni l'existence de mon père. C'était juste des personnages. Je savais bien que j'avais été cet enfant endeuillé. Je savais bien que ces êtres-là, les grands-parents, l'oncle, le père, avaient existé dans des mondes perdus qui n'avaient plus du tout de consistance dans le réel. Mais tout ceci me semblait comme dans une autre vie. Et donc, je n'attendais plus rien, en fait. Et c'est précisément, je crois, au moment où l'on n'attend plus rien que parfois on est touché Alors, soit par la grâce, mais là, c'est pas la grâce, soit par quelque chose qui nous fracture, qui nous foudroie et qui vient nous rappeler. Vous savez, ces promesses qu'on se formule enfant dans le noir d'une chambre, quand on souffre d'être tout seul dans le noir, absolument nu, absolument démuni, on se raconte tout un tas d'histoires, on se formule des promesses. Ben, moi, je me racontais déjà ça, voilà, pour essayer de survivre.
Et là, le moment était arrivé de l'écrire, cette histoire, et puis de répondre aussi à cette petite ardoise sur laquelle votre père, avant de mourir, avait écrit vos deux prénoms, celui de votre maman et le vôtre. Et l'écriture répond à l'écriture, refaire le lien. Alors Saturne, c'est donc d'abord le portrait d'un homme que vous n'avez pas connu, on l'a dit. Vous aviez à peine un peu plus d'un an quand il est décédé. Et de fait, c'est un homme que seule la littérature vous permet d'appréhender, puisque c'est le lieu où la mort n'a pas de prise. Mais comment faire pour imaginer une enfance, une relation ambiguë avec un frère aîné, des liens avec l'Algérie où ses parents étaient médecins mais qu'il a dû quitter assez jeune, sa passion pour votre mère? Est-ce que vous êtes appuyé sur des souvenirs de famille, des documents, voire des intuitions, Sarah Chiche?
Il y a quelque chose d'assez curieux, c'est qu'à la suite de la publication de Saturne, des femmes surgies d'un passé très lointain m'ont écrit parce qu'elles avaient assisté à l'enterrement de mon père. Et elles m'ont dit, cet enterrement que vous décrivez là, c'était exactement comme vous l'avez raconté. Alors ça, c'est tout à fait glaçant parce que j'avais 15 mois et justement, je n'y étais pas. Ça s'est déroulé en mon absence. Donc effectivement, la littérature peut être parfois le lieu d'intuition absolument glaçante. Hein. C'est le commerce avec les vivants et les morts où le temps n'existe plus et on a des intuitions comme ça. À part pour cette scène-là, très précisément, il importait d'être tout à fait rigoureux dans ce qui est raconté dans la première partie du livre concernant la fiction algérienne, c'est-à-dire aussi bien comment la médecine dite de colonisation s'est implantée au moment de la conquête coloniale, quand la France de Charles X a décidé de débarquer en Algérie dans les années 1830 à 1860. Ça a été absolument épouvantable. Il y a eu des tonnes de morts. Ça a été affreux, les soldats étaient décimés et en même temps on expropriait les Algériens de leurs propres terres. Donc là, il fallait lire des documents, regarder des films et puis de même raconter les événements, la guerre d'Algérie, n'est-ce pas? Là, j'ai fait appel à des gens qui avaient vécu cette période pour qu'ils me racontent leur exil. Là, la plus grande rigueur était de mise. Il y a également dans le roman quelques lettres que je cite, que j'ai retranscrite telle. Donc là, le réel et le refus du semblant me semblaient tout à fait importants. Pour autant, je savais que j'allais écrire ce livre en sachant qu'il y avait un voile qui ne se lèverait jamais que sur du néant, que toute tentative de recomposition du cadavre serait vaine. Ce livre n'est pas un tombeau pour mon père, c'est une plongée avec les morts, dans les morts, tout en sachant qu'à partir du moment où il y a des choses qu'on ne saura jamais, tout est perdu, mais tout est possible aussi. Et c'est là que le lieu de la fiction et de la littérature peut advenir.
Je fais une parenthèse, Sarah Chiche. Quel est votre lien avec l'Algérie? De fait, aujourd'hui, est-ce que vous avez eu envie d'y aller, d'aller sur les traces à Bab El Oued, où il y avait cette clinique de vos grands-parents, pays qu'ils ont dû fuir en catastrophe?
Oui, jusqu'à présent, non. Mais figurez-vous que depuis que j'ai écrit ce livre, je remets ça en question. Alors bien sûr, je suis toujours très sensible à l'actualité, à ce qui se passe en Algérie. Je ne suis jamais neutre et jamais insensible face au destin de ce pays. Pour autant, jusqu'à présent, je n'en ai pas eu le courage parce que je crois que ça a été pour eux cet exil. Alors même que certains d'entre eux étaient tout à fait en faveur de l'indépendance dans cette famille et qu'ils considéraient que musulmans et juifs étaient des frères, et que certains d'entre eux, notamment le grand-père et les parents du grand-père, ils avaient parlé arabe avant de parler français. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils étaient en même temps dans un aveuglement total. C'était des grands bourgeois, des médecins qui soignaient des gens de toute confession et de tout milieu social, et ils étaient dans la certitude tout à fait aveuglante qu'ils faisaient le bien à partir du moment où ils avaient charge de corps et charge d'âme, sans penser un seul instant, sans voir l'horreur de ce qui se passait tout autour d'eux.
Et donc, dans cette famille atypique, Harry essaye de trouver sa place. C'est difficile. Son père aimerait qu'il soit médecin, mais il n'est que fils de médecin. Il est frère d'eux, il est étudiant d'eux, amoureux d'eux. Et il se réfugie plutôt dans une vie invisible, la littérature, Kafka, Strindberg, le cinéma, Bergman, Hitchcock ou ce fameux télescope pour regarder les étoiles. Et puis un jour, il rencontre une étoile bien réelle avec qui il va connaître une incroyable passion amoureuse. C'est Eve, la mère de la narratrice, personnage éminemment littéraire, voire cinématographique. Le prénom, Eve, magnifique. La blondeur. On n'est pas très loin d'Hitchcock d'ailleurs. Hein. Les deux prénoms, je trouve, font vraiment référence au film d'Hitchcock. Qu'est-il arrivé à Harry ? Et Eva Marie Sainte, qui est l'actrice principale de North by Northwest, La mort aux trousses. Ouais. Voilà, je retrouve le titre.
C'est très bien vu, oui.
Je vous vois sourire. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle vous aviez pensé.
Ah oui, absolument, tout à fait. Alors il y a Hitchcock, et puis il y a aussi Casino de Martin Scorsese, et puis il y a aussi Manon Lescaut. Ça m'intéressait de travailler à partir du personnage d'Ève, la figure de la fille perdue, hein, la fille perdue et la femme fatale, c'est-à-dire celle qui, par son incandescence et sa face noire, va absorber tout entier un homme et qui va le conduire à son élévation, mais aussi à sa perte.
Effectivement. Alors, on parle de références littéraires, de références cinématographiques, et une autre référence, si vous le permettez, Sarah Chiche, pour illustrer ce couple, vos parents, ce moment du livre où ils sont heureux. Je vous propose d'entendre une chanson qu'ils écoutent enlacée et que vous citez, Space Oddity de David Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Sarah Chiche, auteure du roman intitulé Saturne, publié au Seuil, portrait d'un homme perdu, amoureux, parti trop tôt, récit d'une famille déracinée de l'Algérie à la France et d'une enfant qui, devenue adulte, revit le deuil de son père au moment du décès de sa grand-mère en 2002, comme si par écho, par anneau, le sentiment de perte résonnait à nouveau. Est-ce que les morts réveillent les morts, Sarah Chiche ?
Ah oui, je le crois, oui. Aujourd'hui encore, je le crois, effectivement, un deuil peut en cacher un autre. Et il arrive que l'on perde quelqu'un et puis on ne ressent rien. Et puis des années après, à l'occasion d'une autre perte, ce peut être d'ailleurs la perte d'une personne ou la perte d'un animal, tout à coup, quelque chose se fracture et on tombe en soi-même, on tombe dans un trou. C'était important pour moi de raconter dans Saturne que face au deuil, si certains d'entre nous le traversent et s'en remettent, il arrive que d'autres se laissent mourir avec leur mort, dans leur mort. Et ce qui est terrible concernant les endeuillés, c'est que ce qui tue, c'est pas seulement la douleur morale, mais la condescendance et le mépris crasseux avec lequel on va considérer les endeuillés au bout d'un moment. Hein. Vous avez bien le droit d'être triste, mais...
Pas trop longtemps.
Pas trop longtemps. Hein. Il s'agit très vite de redevenir conforme et performant et optimiste. Et Harry, dans la première partie du livre, et la narratrice dans la seconde, sont des êtres aussi d'une certaine façon non conformes. Ils ne sont pas conformes à leur milieu. Ce sont des rêveurs. Ce sont des mélancoliques, ils sont dévorés, alors moi je suis dévorée par l'écriture, hein. Ça, je pense que ça me bouffera, mais c'est très bien comme ça. Et puis Harry était dévoré par sa passion pour les étoiles, sa passion pour les livres, pour le cinéma, sa passion pour les femmes, et puis un jour pour une femme qui a éclipsé tout le reste.
Arrêtons-nous un instant, si vous voulez bien, Sarah Chiche, avec ce personnage de la grand-mère. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où la petite fille aime être dans les bras de sa grand-mère, où elle y trouve une immense douceur, et cette jeune femme de 25, 26 ans qui n'a pas vu sa grand-mère depuis des années?
Il y a des choses qui ne sont pas pensables, qui ne sont pas dissibles autrement que dans les livres, que dans par la littérature. Et encore, même les mots tournent autour d'un trou, autour d'une horreur qui est littéralement impensable. Et c'est aussi sur cet impensable-là que j'écris. Et puis aussi la question de ces formes de violence que subissent les enfants. Parfois violence physique ou maltraitance psychologique. C'était important tout de même d'en faire entendre quelque chose et d'expliquer comment des êtres vulnérables peuvent être conduits par les adultes, de leur propre famille, dans un trou, quoi. À vouloir s'éjecter du monde parce que c'est trop dur, parce que ça fait trop mal, parce qu'on a trop peur. Donc à un moment donné, effectivement, c'est ce qui arrive à cette petite fille. Et puis une famille, je l'ai dit, oui, c'est un orchestre parfois très très dissonant. Donc c'était important de raconter comment les personnages qu'on rencontre dans la première partie du livre et qui sont dévorés par l'hubris, la démesure maniaque de la conquête, de la reconquête glorieuse après l'exil algérien, parce qu'ils vont vouloir tout reconstruire à l'identique et construire un immense empire médical en France, comment ces personnages-là, on les retrouve dans la seconde partie, hantés par le deuil, Harry est mort. Et alors, quand quelqu'un meurt dans une famille, eh ben, nous n'avons pas tous la même façon de réagir et de nous protéger. Et c'était cela aussi que je voulais raconter. L'enfant assiste à tout cela. Il est démuni.
La déflagration du deuil et la réplique de cette déflagration, donc, avec la mort de la grand-mère. Et là, dans cette deuxième partie, vous racontez, Sarah Chiche, comment lentement, mais sûrement, la narratrice s'enfonce dans les ténèbres, seule, sans aide, dans une chambre d'hôtel, elle se laisse mourir. Elle est rattrapée in extremis par la vie. Elle se retrouve chez sa mère. Si vous voulez bien nous lire l'extrait de votre roman Saturne qui raconte cette scène et qui surtout met des mots sur cette douleur et l'incompréhension que cette douleur suscite autour de soi.
La tristesse qui tombe sur la poitrine dès qu'on ouvre les yeux. Le manque absolu d'appétit et de force qui ruine toute envie de se lever. La fuite dans le goudron du sommeil. Les songes qui arpentent les décombres de l'enfance, chambre vidée de ses jouets, cuisine où se décomposent les restes d'un repas. Parc calciné au peuplier déraciné. Les bouffées de terreur qui réveillent à 3 heures du matin, le corps vidé de ses organes, plein à ras-bord d'un liquide noir. la tête qui veut se taper contre le mur parce qu'elle ne se sent pas exister, la blancheur des cliniques où la mère, terrorisée par ce qui est arrivé à sa propre mère, supplie qu'on n'enferme pas son enfant, la négociation pour les soins à domicile, la torture de la culpabilité quand on contemple autour de soi l'horreur familière des meubles, la honte d'être redevenue dépendante de cette mère et de ce beau-père qu'on avait voulu fuir et qui sont désormais les seuls sur qui compter. L'incapacité de rester sans surveillance plus de quelques minutes parce qu'on a perdu l'usage des mots et que, éveillé ou endormi, ce n'est même plus le sentiment de la faim, mais la certitude d'être avalé dans l'horreur du cauchemar toujours recommencé. Ils écoutent tout ce que disent les médecins. Ils hochent la tête. Ils essayent de comprendre l'étendue de la tristesse, l'ampleur de l'angoisse. Ils font semblant de comprendre. Ils répètent « Je comprends ». Ils disent qu'ils ont toujours tout fait en pensant faire le bien. Ils demandent « Veux-tu que l'on t'arrange tes oreillers ?» On se terre sous la carapace de la couverture. Ils s'assoient sur le lit. Ils bredouillent « On t'aime très fort » ou « Le docteur est optimiste » ou « Mais tu vas t'en sortir ». Ils ne pensaient pas un seul instant qu'on pouvait être triste d'hériter. Triste d'avoir perdu une grand-mère qu'on n'aimait pas, triste pour un père qu'on n'a pas connu. Ils répètent, comme les enfants anxieux veulent cacher les mauvaises pensées qui les assaillent, les forces obscures qu'ils ne contrôlent que faiblement par de bons sentiments. « Oh, on pensait que t'étais en train de te faire une belle vie loin de nous, que t'avais besoin d'être seule pour te construire, que si tu donnais pas de nouvelles, c'est que tout allait bien et on respectait ton choix. » Ils pleurent. Ils demandent pardon. On les fixe depuis un point qui est pure négation de l'ordre de leur monde. On dit qu'on ne leur en veut plus de rien. Mais cette formule, ils s'en rassurent. Ils ne l'entendent pas grincer dans la tête du pantin disloqué qui ricane parce qu'on n'en veut plus à personne. On n'en veut plus de rien quand on ne veut plus de rien.
Merci Sarah Chiche. Et puis, après un long tunnel, surgit une image. Celle d'un vieux film de famille, restauré, où là la narratrice voit son père jeune, heureux, et particulièrement cette image où il prend son bébé dans les bras, lui parle, l'embrasse, et les deux se regardent avec amour, et c'est la révélation, il aimait sa fille, et sa fille l'aimait. Lumière. Que dit cette scène, Sarah Chiche ? Que les non-dits nous emmurent ?
Je ne sais pas, ce film existe vraiment. J'étais très malade quand on me l'a donné à voir et ça a été pour moi le lieu d'une fracture à l'envers. C'est-à-dire que tout à coup, vous voyez quelqu'un qui a toujours été un fantôme de sa vie, en l'occurrence le père. Vous ne vous souvenez pas l'avoir vu ni vivant ni mort et tout à coup, par l'image, par la magie du cinéma, vous le voyez bouger. Il bouge, il bougeait, il a donc bougé un jour, il a donc existé. Ce choc, cette sidération, quand vous voyez quelqu'un qui n'est plus ni vivant ni mort, mais tout à fait vivant dans ses imperfections. Il était important de raconter, de peindre cet homme dans ses imperfections. C'est-à-dire que la narratrice le voit bouger, il saute dans la piscine, il est gros, il sait pas très bien nager, il est un peu ridicule quand il essaye de se hisser sur ce canot pneumatique et c'est justement la vulnérabilité de cet homme, dans toute sa juvénilité et ses imperfections qui le rend enfin terriblement vivant. Il cesse d'être un fantôme dans le film. Et donc, voyant cela, la narratrice cesse d'être un fantôme dans la vie. Et les deux images, père et fille, se recollent comme les deux faces d'une même planète. Et il m'importait dans cette séquence de raconter que tous ces personnages qui ont été frappés par la tragédie, tragédie de la guerre, de l'exil, tragédie des disputes familiales, tragédie du deuil, ils se sont aussi aimés. Ils ont aussi été heureux. Ils ont aussi beaucoup ri ensemble. Et donc de montrer cette, comme les lumières des étoiles qui nous parviennent parfois que très très longtemps après leur venue ou leur explosion, de peindre cette joie suspendue par la magie du cinéma.
C'est pour ça que je parlais de lumière, en effet. Cinéma, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'à la fois c'est un documentaire, c'est du réel,
oui.
Et en même temps, c'est comme un média de fiction.
Oui, et puis Saturne, en ce sens, c'est peut-être aussi cette évolution-là, une histoire de l'image, depuis l'absence d'image du père, jusqu'en passant par les photographies qui sont évoquées, mais la photographie, c'est encore quelque chose de figé. La photographie a toujours à faire avec le deuil. L'instant où a été pris la photographie est toujours déjà perdu. Jusqu'au cinéma, où tout à coup, on voit des personnages bouger dans un monde perdu qui tout à coup n'est plus perdu, parce qu'il est, restitué le temps du film.
Et donc, vous écrivez, Sarah Chiche, que vient le temps de la guérison. Est-ce pour cela qu'ensuite vous êtes devenue à votre tour psychanalyste et psychologue clinicienne ?
Il m'a paraissé important de transmettre à mon tour quelque chose de ce que l'on m'avait donné, hein, dans ce moment où j'ai perdu la vie pendant près de 3 ans. Et puis... Il s'agit bien d'une renaissance, c'est-à-dire d'une vie tout à fait autre, sous une autre forme. Paraissait, c'est une éthique, en fait, et un devoir moral de devenir à mon tour quelqu'un qui soigne, qui essaye de soigner à ma manière, c'est-à-dire tout à fait différemment que les gens de ma famille, mais tout de même d'être dans le soin. Maintenant, bon, il est vrai que c'est un travail, mais c'est juste un travail que je fais avec beaucoup d'engagement, mais c'est un travail. Ce qui est le fond de l'être, c'est l'écriture.
Mais en même temps, avec cette idée que je trouve essentielle de dire aux autres que le deuil fait partie de nous.
Oui.
Et ça, c'est pas anodin. Vous l'écrivez avec grande justesse. Voilà. Ce que vivent les gens comme moi, c'est autre chose. Pour nous, le temps du deuil ne cesse jamais. Car nous ne souhaitons surtout pas qu'il cesse. Nous ne voulons pas de son évacuation forcée. Nous ne tenons pas à surmonter la perte. Nous n'aimons pas être consolés, séparés de la chose perdue. Nous vivons en permanence dans et avec nos morts, dans le sombre rayonnement de nos mondes engloutis. Et c'est cela qui nous rend heureux. Et il me semble que c'est une idée très forte de dire aux autres que oui, on peut vivre avec son deuil. Et qu'on ne doit pas faire son deuil et laisser les morts derrière nous.
Oui, on fait son travail, on fait la cuisine, on fait les courses, mais on ne fait pas son deuil. On est fait par le deuil, on fait avec le deuil. Alors, voilà, chacun va faire comme il peut avec les moyens du bord. Mais l'évacuation forcée, hein, l'éviction de la mort du champ social, quoique avec le Covid, là, il semblerait que ça rebatte quelque peu les cartes. Voilà, c'est quelque chose qui est insoutenable pour un certain nombre de personnes qui veulent continuer à vivre avec leur mort, dans leur mort. Mais ça, c'est pas pour autant une chose sinistre, vous voyez. Un jour, ça cesse d'être le lieu d'une douleur et d'une affliction permanente. C'est juste un mode d'être au monde. Un consentement à la perte, on vit dans la perte avec cette perte-là, et ça n'empêche pas du tout d'aimer profondément la vie, d'être très heureux, au contraire même, je crois, au contraire.
Et d'écrire,
oui.
Qui, là, je crois, est vraiment au centre de votre vie, Sarah Chiche.
Oui, c'est au centre de ma vie. Depuis l'enfance, j'essaye d'écrire, et de livre en livre, je tente de m'approcher au plus près d'une forme, de trouver la note la plus juste possible, et à chaque livre de trouver une forme différente. Oui, bien sûr.
Oui, parce que la littérature est le lieu de tous les possibles et de toutes les retrouvailles aussi.
Oui, ce sont des retrouvailles. Vous voyez, l'écriture, c'est le seul lieu où je peux à la fois perdre mes morts, les rejoindre et puis les attendre dans le temps de l'éclair blanc d'une page qui se tourne. Et je connais pas beaucoup de joie plus forte que cela. Et puis, ce n'est pas seulement mes morts, c'est aussi les mondes perdus, ou des mondes que je ne connais absolument pas. J'étais très heureuse de partir dans l'exploration, la découverte de ce qui s'est passé en Algérie au moment de la conquête coloniale, même si ça a été absolument atroce. J'ai appris énormément de choses sur la médecine à cette époque-là. Et donc, c'est vraiment là, vous voyez, la pulsion de recherche, la pulsion de savoir qui prend le pas sur tout le reste.
Tout est perdu, tout est splendide. Les derniers mots de votre roman. Merci beaucoup, Sarah Chiche, pour ce très très beau livre qui s'intitule Saturne et qui est apparu aux éditions du Seuil.
Merci à vous.
Littérature sans frontières.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ».
Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.